Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par le bras de fer États-Unis-Iran. Le président Donald Trump joue la carte de l'apaisement après des tirs de missiles iraniens sur des bases américaines en Irak. Les grandes lignes du message du chef de l'exécutif américain à la Maison-Blanche hier avec Eric Manirakiza.
Le président Donald Trump a annoncé l'imposition immédiate de nouvelles sanctions contre l'Iran. Cependant, il n'a pas évoqué de réponse militaire, éloignant le spectre d'une escalade régionale, voire d'une guerre ouverte entre Washington et Téhéran. L'Iran, en représailles à l'élimination par Washington du général Qassem Soleimani à Bagdad, a tiré mardi nuit sur deux bases américaines en Irak. Au total, 22 missiles sol-sol se sont abattus sur deux bases où sont stationnés des soldats américains. Aucun Américain n'a été blessé, s'est félicité d'entrer le président américain. L'Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour le monde, a lancé le chef de l'exécutif américain. Il a conclu par un message au peuple iranien et à ses dirigeants en disant que les États-Unis sont prêts à la paix avec tous ceux qui la veulent. Il a aussi exhorté les Européens à quitter l'accord sur le nucléaire iranien et s'est entretenu avec Boris Johnson, le premier ministre britannique.
Afrique maintenant, guerre civile en Libye, les présidents russes et turcs appellent à un cessez-le-feu à Tripoli. Je veux formuler à l'occasion d'une rencontre mercredi à Istanbul. L'Union européenne a promis le même jour à Fayez al-Sarraj, le patron du GNA, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, d'intensifier les efforts pour trouver une solution pacifique au conflit. Pour leur part, l'Égypte, la France, la Grèce et Chypre ont qualifié de nuls et non avenus les accords signés en novembre dernier entre le GNA et Ankara, dont un qui permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. Les précisions avec Jacques Aristide.
À l'issue de leur réunion au Caire, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays ont estimé que ces accords ont sapé la stabilité régionale et sont tous considérés comme nuls et non avenus. Leur homologue italien qui a pris part à la réunion ne figure pas parmi les signataires du communiqué. Deux accords, dont l'un porte sur la coopération militaire, ont été paraphés le 27 novembre dernier par Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, et le président turc Recep Tayyip Erdogan, son principal soutien. M. Erdogan a même annoncé l'envoi de troupes en Libye pour aider le GNA à repousser les assauts des forces du maréchal Khalifa Haftar, appuyé par les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, deux adversaires de la Turquie. C'est surtout l'accord de délimitation de la frontière maritime qui a provoqué une levée de boucliers, notamment en Grèce, en Égypte et à Chypre, car il permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. Les ministres ont fermement condamné les forages réalisés par la Turquie au large de Chypre et pressé Ankara de cesser immédiatement toutes les activités d'exploration illégales.
La lutte contre les djihadistes en Afrique, les islamistes somaliens Chebab ont averti mercredi le Kenya qu'il ne sera jamais en sécurité. Ils ont proféré des menaces contre les touristes et lancé un appel à de nouvelles attaques contre les intérêts des États-Unis après une incursion dimanche dernier contre une base américano-kenyane de la région de Lamu sur la côte de l'océan Indien. Dans un communiqué, les Chebab, groupe lié à Al-Qaïda, ont souligné que leur attaque contre le camp Simba près de Lamu dans l'est du Kenya, qui a tué trois Américains et détruit plusieurs avions, constituait un avertissement. Au Mali, 18 casques bleus et 2 civils maliens ont été blessés ce jeudi dans une attaque au mortier contre un camp militaire dans le nord-est du pays, région en proie aux violences et aux activités des djihadistes. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. 15 tirs de mortier se sont abattus sur le camp de Tessalite dans la région de Kidal, proche de la frontière algérienne. Le super camp de Tessalite abrite un bataillon tchadien de la MINUSMA ainsi que des forces françaises de l'opération Barkhane et des militaires maliens. Les deux civils ont été blessés dans la partie française du camp.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, la justice tchadienne a abandonné les poursuites contre un responsable d'ONG et un ancien premier ministre qui avaient été arrêtés dans le cadre d'enquêtes différentes. Plus de détails avec John Lyndon.
L'ancien premier ministre et actuel secrétaire général de la présidence, Kalsebe Bahimi Debe, a été blanchi par la Cour suprême, selon son avocat Alain Kagombe. Mahamad Nour Ahmed Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, a lui bénéficié d'un non-lieu, selon Jacqueline Moudena, son avocate. M. Bahimi Debe a été écroué le 3 décembre pour détournement des deniers publics, une procédure dénoncée par son avocat. L'ancien premier ministre à la tête du gouvernement de 2013 à 2016 avait été remis en liberté provisoire le 23 décembre. Le 6 décembre, M. Ibedou, militant des droits de l'homme, a été incarcéré de complicité de meurtre. Son arrestation a été condamnée par la Conférence internationale des barreaux, un collectif d'avocats de 40 pays francophones. Mais selon la presse tchadienne, son inculpation a été liée à la mort d'une adolescente de 14 ans. Nous avons estimé qu'il n'y a pas de charge retenue contre Ibedou et le juge d'instruction a suivi nos réquisitions, a indiqué Gérard Nédéou, premier substitut du procureur de la République, en Djamena.
République démocratique du Congo, les activités sont suspendues à l'université de Kinshasa et les étudiants sont priés de déguerpir du campus universitaire après de violentes manifestations qui se sont soldées par des dégâts matériels et des blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants. Eddy Sango a joint à Kinshasa le porte-parole du gouvernement, le ministre Jolino Makelele.
On a décidé que les étudiants puissent déguerpir le campus. Les cours sont suspendus et ce temps sera mis à profit pour recenser tous les étudiants qui sont en règle et qui le sont effectivement. Cela va regagner dans les jours qui viennent le campus et ceux qui n'auront pas été en règle naturellement ne seront pas autorisés à fréquenter les campus.
Est-ce qu'il y a un bilan de troubles qui ont eu lieu depuis dimanche à l'université de Kinshasa?
Le seul cas flagrant qu'on a eu, c'est celui de la blessure d'un policier, blessure grave consécutive à un lynchage qui a eu lieu au niveau du campus. Et c'est la raison pour laquelle, parce que nous sommes convaincus que les étudiants sont vrais, mais ça ne donne pas ce genre d'exercice, et que c'est sûrement des gens qui sont infiltrés, qui n'ont pas la qualité d'étudiant, qui se donnent à ce genre d'exercice. Et la police a interpellé certaines personnes, et il y a aussi les services qui font leurs études pour s'assurer que la situation est calme et que on ne reviendra plus à ce genre de situation.
On parle de deux policiers décédés lors de ces troubles.
Bon, on n'a pas un bilan faisant état de mort au niveau de ces incidents. Il n'y a pas contre un policier grièvement blessé et donc qui est entre la vie et la mort. C'est une nouvelle sûre.
Est-ce que le gouvernement résout les problèmes qui est la revendication des étudiants du rabais de frais qu'ils devraient payer qui ont été revus à la hausse?
Le chef de l'État a décidé lui-même de prendre à bras le corps ce sujet. Il va rencontrer dans les heures qui viennent les représentants des étudiants pour voir dans quelle mesure ce qui avait été convenu entre les étudiants et les corps enseignants a été ou non respecté. Parce que ne l'oublions pas, il s'agit des engagements qui ont été pris entre les représentants des professeurs, les représentants du corps scientifique et des délégués des étudiants. Maintenant, on verra dans quelle mesure cette décision a pu ne pas rencontrer l'assentiment de tous les étudiants, mais tout cela fera l'objet des explications que les étudiants auront à donner au président de la République. Le président de la République avisera après avoir écouté tout cela.
Quand les activités pourraient-elles répondre à l'université de Kinshasa alors?
Ce sera rapidement. Donc là, une fois que la mesure de déguerpissement aura eu lieu, elle est d'ailleurs en train d'être exécutée, et après, on fera appel aux étudiants.
Ils ont gagné leur logement, mais on sait que les conditions de vie et d'études là-bas sont insupportables. Hein. Je ne sais pas, est-ce que le gouvernement pense à...
Là, vous abordez un autre aspect du problème. Donc, c'est petit à petit que nous commençons. Nous commençons par l'enseignement primaire. Vous avez dit que nous avons fait un effort gigantesque. Nous avons fait les enfants, y compris, surtout, c'est les parents démunis, en situation d'être scolarisés.
Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement de la RDC. Et pour terminer, politique au Togo, 10 candidats se présenteront à l'élection présidentielle prévue le 22 février 2020 dans le pays. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ces postulants sont les personnalités qui ont pu déposer leur candidature à la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature le 8 janvier 2020 à minuit. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.